existe des populations fragiles auxquelles elles sont faibles de très bizarre.
Ça n'apparaît pas, mais je pense que ça s'explique par l'autre question sur pourquoi avec ou sans épargne préalable. Je pense que en filigrane, parce que ça n'apparaît pas, je dis ça comme ça, on voit qu'il y a beaucoup de féminisme dans vos discours à la poste, c'est vraiment attention à les PPT, font attention à tout. Donc je pense que ça c'est dans la définition du de l'état constructionnel des pannes crédits, je retourne au texte parce qu'ils nous disent que c'est un système d'octroi de prêt aux particuliers pourront justifier d'un effort d'épargne préalable. Donc je pense qu'ils cherchent avant tout une participation active,
effort,
hein. Un effort, voilà.
J'avais pas vu l'effort.
Hein. Au-dessus, ils disent aussi, ils mettent plusieurs fois, voilà, il faut qu'il y ait, ça a l'air d'être très important, parce que, voilà, on ne donne pas comme ça, sans rien. C'est-à-dire, il faut avant épargner pour, il faut le mériter. Enfin, le mériter, c'est peut-être un peu fort, je ne sais pas justement comment...
C'est une réponse morale.
Voilà, je pense qu'elle est là. Elle est ici, donc c'est ce qui va évoquer peut-être tout le monde. Mais d'ailleurs, on trouve, ça c'est quand vous l'avez dit aussi, montrer la tonalité paternelle. Elle est très paternelle avec ses clients, mais ça, ce qui apparaît dans un charge sur les conseils financiers, elle est très maternelle avec ses conseils financiers. Et le double impact, pas seulement les clients, ses agents eux-mêmes, les personnels aussi. Et ça, c'est très impressionnant. Alors, sur aussi, donc je vais continuer là-dessus, donc cet effort, le fait que ça aille pas plus loin, je pense que c'est dû aussi qu'il y a eu un détournement en 70, avec le décret 70 du plan d'épargne logement. J'en parle un peu, ce n'est pas dit ici, mais ça a été détourné. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un moyen de financement pour aider à la reconstruction, à la construction, ou reconstruction, peu importe. Et c'est son image, c'est comme ça qu'on va voir, c'est ce qu'on voit le faire encore comme ça. Mais en 70, j'explique que ça s'est fait très rarement, ce n'était pas une pratique courante, mais c'est devenu pour certaines personnes un système de classement avantageux, c'est-à-dire que les gens devaient remplir leur plan d'épargne logement, et à la fin, ça avait été un placement, mais aussi dépourvu de tout lien avec la construction, et même éventuellement de toute forme d'investissement personnel. C'est-à-dire qu'on parle de la correspondance, que ça, ça devait aussi être réticent par la suite, en se disant déjà en demandant des points préalables, on réussit à biaiser le système. Si on ne demande rien, ce n'est pas la porte ouverte à tout. Après, ça, ce sont des hypothèses, des informations, je... Voilà, je peux en dire beaucoup plus. Sur la question de départ, sur la position qu'ont passé ces institutions de l'économie des sciences et de la poste, bien sûr, il faut passer sur la conception naïve, peut-être pas, mais de premier abord sur officielle, la position officielle du Trésor comme défenseur de la conception défensive du service public. Non, il y a aussi l'argument officieux qui apparaît beaucoup moins, et on en a parlé tous les deux, sous ne pas déséquilibrer la vie des acteurs économiques, mais plus que ça, c'est plus précis, c'est qu'à ce moment-là, et c'est ça le débat entre AFP, enfin l'espèce de chantage, c'est un grand mot, mais le Trésor demande à la FED que les banques diminuent leur coût d'intermédiation. Donc, le Trésor est demandeur de quelque chose. Vous imaginez bien que la FED, c'est pas... Enfin, c'est vite chargé de leur faire comprendre que si la POC obtenait les crédits, bien sûr que ça rendrait bien plus difficile la baisse du coût d'intermédiation et que du coup, en augmentant la masse monétaire, ça allait alimenter et créer l'inflation, puisque nous explique le Trésor. Mais ça, c'est dit, si j'ai trouvé une fois, et je pense que ça apparaît comme la raison peut-être la plus profonde, mais celle qui vraiment ne doit pas apparaître, on ne peut pas dire c'est pour limiter l'inflation, et de toute façon, nous ne devons pas, on leur demande de baisser leurs coûts, donc nous tenons notre institution postale pour les empêcher eux, ça nous donne un argument. C'est pas possible de dire comme ça. Mais je pense que ça, c'est une des raisons.
Ça serait développé,
mais c'est
vos remarques qui m'aident à... Ça sent aussi que les gens du Trésor, souvent, pantoufles dans les banques après. C'est-à-dire, des places du public au privé, et donc sont des espèces d'interlocuteurs au plus haut niveau. Quoi.
Et là aussi, il faut s'assurer, je pense que chacun de ces grands dirigeants défend son administration parce qu'il s'y trouve, il suffit... Je pense que, voilà...
Le Trésor, c'est un petit peu comme ça de l'idée, mais... C'est un microcosme sociologique très particulier. Hein. C'est vraiment les gens qui ont le pouvoir. Hein.
Ah oui, là, tu vois clairement.
D'autant plus qu'à cette époque-là, les grandes banques sont nationalisées. La BNP, le FDJ sont toutes des banques nationales. Donc le trésor a
sous sa... Bien sûr, c'est ça. Moi, je c'est beaucoup plus ça que l'inflation, qui en plus, à l'époque, la lutte contre l'inflation n'est pas une priorité vraiment économique. Ça, c'est un peu un anachronisme, parce que ça vient dans les années... Ouais. Non, mais je... Enfin, ce que je connais en tout cas, c'est pas encore...
En fait, c'est la D74.
Oui, mais... Ouais, mais avant que ça devienne un impératif, car il y a... Aujourd'hui, c'est tellement une monnaie courante à lutte contre l'inflation qu'on a l'impression que ça a toujours été le cas. Je pense que le fait que, par contre, ils aient sous leur tutelle les autres banques, et ce que tu disais de la pression de l'AFD et de ces réseaux bancaires de concurrence, ça me paraît une sorte de logique de pouvoir qui va même mieux dans votre topo qu'un espèce d'argument de bonne santé économique de l'État pour lutter contre l'inflation, où là, là aussi, je pense que ça peut être critiqué pourquoi d'un charge.
Je pense que c'est complètement dit, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus, ça j'ai dit, il ne faut pas non plus sous-estimer à quel point les fonctionnaires du Trésor, il faudrait voir de plus près un par un dans leur texture sociologique, à quel point ils ont aussi intériorisé l'idéologie de l'État dans toutes ses dimensions françaises. À la fois républicaine, à la fois étatique, à la fois gaulienne, à la fois...
Je m'en suis complètement faux par rapport à ce que vous dites. Sur cette période, on est, à partir du début des années 70, on est dans le système d'encadrement du crédit. Et ça, c'est très important à comprendre. Quel est le système d'encadrement du crédit? On dit une banque, vous avez prêté 100. L'an dernier, ça donne un taux de 100. L'an prochain, ça donne un taux de 100. Voilà, c'est 3%.
C'est qui dit ça? Le trésor?
Le trésor. L'État.
L'État?
Oui. Bon, donc, en fait, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Regardez, les taux d'inflation ne sont pas comparables à ceux qu'on a aujourd'hui. Hein. Ils sont bien plus élevés.
Bien sûr.
Nous sommes dans une période de faible inflation. Par conséquent,
le
stage d'encadrement du crédit, quelque chose de tout à fait fondamental, parce que ça empêche le développement. À partir du moment où on dit la poste va pouvoir prêter, il va bien falloir récupérer ses sous sur d'autres. Puisque on bloque la masse monétaire sur les banques. Les banques sont créatrices de monnaie. Donc en fait, si on laisse les PTT, enfin la poste prêter, on n'est pas sûr. Donc c'est la position du trésor, rien que ça. Et donc je crois, ce que vous dites sur les liaisons du trésor, vous avez parfaitement raison. C'est le corps de l'inspection des finances.
Le haut du corps est là.
C'est
le plus haut.
Bon, mais, alors, tout ça compte, hein, mais je crois qu'il y a un point important, qui est vraiment l'encadrement du crédit, qui va durer jusqu'à la fin des années 80. Alors, pour dire, l'inflation, c'est quelque chose à l'époque. Hein.
D'autant qu'en même temps, on laisse un plus avec les voies de grève, on laisse un plus de liberté aux banques. On y garde.
Mais les parents, parce que là, on se situe, le bas de près, c'est 65-66. Or, en fait, en gros, on a le temps de stabilisation 63, c'est jusqu'à 66 degrés. Ensuite, à partir de 70-71, on commence à traîner, 74, la crise. Et donc là, on se perd. En plus, on agit ça comme président, donc ça continue.
Juste un micro-point d'ouverture qui n'est pas une question à laquelle il y a une réponse tout de suite, mais effectivement, moi, ça m'a frappé cette histoire de la définition juridique du service public comme gros étendard pour cacher plein de trucs, et puis la peur réelle du procès. Et je pense que là aussi, c'est lié quand même à une culture très particulière des hauts fonctionnaires français, toute la formation en droit administratif et tout. Et ce sera intéressant de voir par rapport à tous leurs trucs sur les services publics, est-ce qu'ils envisagent vraiment que quelqu'un pourrait, par exemple, attaquer en Conseil d'État si la poste ce n'était pas? Ou est-ce que c'est juste implicite, c'est tellement intégré dans leur tête qu'ils n'ont même pas besoin de le dire, mais je trouve ça intéressant le rapport à la possibilité d'un contentieux, en fait, qu'on ne trouverait pas forcément avec des gens avec une autre culture professionnelle, quoi. Pour ceux qui ne sont pas obligés de partir à 18h00 pour des raisons de crèche ou autre, on peut rester, hein, mais...
Bon, merci pour sa lecture et pour ses remarques. Je vais répondre aussi de façon très désorganisée. Je vois que c'est une version un peu hard de ce modèle. Quand même, j'ai dit que les autres que je fais simplement le sur la chaîne d'interaction, et de fait, quand même, une bonne partie des interprétations que je propose sont informées par d'autres matériaux.
Bien sûr,
on particulier dans le chacun. Bon, peut-être un autre matériau qui serait plus intéressant pour la question qu'on se posait à l'origine aujourd'hui, qui est liée à l'anarchie sociale, bon, dans un petit questionnaire que j'ai distribué à des clients, on voit qu'il y a une partie de la population qui est prête à accepter vraiment une asymétrie de connaissances entre les clients et les fonctionnaires de la banque, et ce sont ceux qui sont en fait dans les échelles sociales qui sont intermédiaires, c'est-à-dire les plus riches et les plus pauvres ne sont pas prêts à considérer les conseillers bancaires comme des conseillers. Donc en fait, je crois que ça explique.
C'est intéressant.
Je crois que ça explique le fait que, effectivement, dans le matériau que j'ai présenté, il y a l'air d'y avoir beaucoup de domination, parce que j'étais dans deux contextes tout à fait extrêmes, en fait, du point de vue socio-économique. Alors, pour ce qui est des questions que vous m'avez posées à propos de l'observation. Alors, déjà, les exceptions à la recommandation des 33%, il y en a beaucoup, on ne peut pas dire selon moi fictionnel, quoi. Sauf que, il y a, ce que mon enquête a vu, c'est qu'un effet local a fait fort là-dessus. Hein, c'est-à-dire que, dans l'agence de gestion de l'économie, la recommandation des 33% est présentée comme une règle. Hein, comme une règle relativement intangible, alors que beaucoup plus souplement pour ce qui est un peu de ce qu'on peut observer à propos du corps, il y a quelque chose qui revient énormément, qui est le rapport à l'écrit. C'est-à-dire, au moment en particulier de la signature, est-ce que c'est facile d'écrire ou pas, par exemple. Il y a des clients qui, pendant tout l'entretien, sont décontractés sur leur chaise, tout ça, qui au moment de signer, c'est très visible que c'est un effort, enfin, il est complexif, il faut se faire par des...
Le corps de l'enfant.
Voilà. Bon, il y a la signature, il y a aussi les petits morceaux de papier qu'apportent parfois certains clients, mais ils ont été utiles, des choses qu'ils vont demander ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce que je ne peux pas dire si ça a un effet direct sur les décisions de la banque? En revanche, ce qui est clair, c'est que ça rend un petit peu certains aspects. Les professionnels.
Un climat.
Oui, c'est ça. Donc ça renforce un peu les échanges. Voilà. Juste simplement, pour revenir un petit peu sur les illustrations, le crédit malheureux. C'est quand même pas exactement ça que j'ai voulu faire voir, mais plutôt en tout cas le moment de l'épreuve. Il y a un jugement, il y a une épreuve. Bon, voilà. Et ça me paraît, encore une fois, c'est peut-être un peu dramatisé par les deux contextes que j'ai écrits, parce que dans le contexte populaire, bon, il y a des choses à savoir si le fait d'être accepté ou pas. Et puis dans le contexte de la bourgeoisie de l'Ouest de Paris, il y a aussi la frustration du professionnel qui ne peut pas, en fait, pas dire non, il ne peut pas jouer son rôle, déjà dire
il peut pas ajuster un certain point.
Enfin, il ne peut pas, oui, mais pas dire qu'il y a un conflit entre l'importance économique de ce qu'est le client pour l'agence, et donc si on lui dit non, vous allez voir.
Il ne peut pas mettre en œuvre ses compétences. Il est comme limité.
Oui,
il perd la main.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est un peu réduit au rôle de médiateur.
Les putains, ouais.
Voilà, le représentant neutre de l'institution. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Et ça m'amène à l'autre question.
En fait, il y a des conseillers malheureux, c'est ceux qui sont à l'ouest. Finalement, les heureux, c'est ceux qui sont à l'ouest.
comme les profs, on n'est
pas
bon.
Non, non,
des bouquins. Il y en a qui sont clairement pas utilisés. Il y a des affinités différenciées.
Bien sûr. Après, vous parlez des affectations, comment cela se
retrouve? Alors, sinon, je suis tout à fait.